L'eau des hommes et les hommes de l'eau. Les mardis de l'été 2022 à Saint-Jean-de-Luz, un cycle de conférences proposé par la paroisse Saint-Pierre de l'Océan.
XVe et XVIe siècle, les Basques, de la Méditerranée à la Baltique et à Terre-Neuve. Voici la première partie de la conférence de Xavier Larmendi, vice-président de Yakinsa et de Bertrand Ariag, capitaine des Corsaires. Une conférence enregistrée le 9 août 2022 à l'église de Saint-Jean-de-Luz.
Je vous souhaite le bonsoir. Je remercie... Je suis désolé que M. le curé ne soit pas là, mais je remercie beaucoup Stéphano de son accueil. Et je remercie quelques personnes qui nous ont aidés à travailler à ce sujet depuis un an. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un an, pratiquement jour pour jour, une personne m'a offert un livre, et ce livre parlait de la découverte du Canada par les pêcheurs de Saint-Jean-de-Luz et de Cibourg. Étant luzien d'un côté, mais étant canadien de l'autre, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, et j'ai lu le livre avec beaucoup d'intérêt. C'était un livre qui avait paru en 1971 et par M. Bélanger. Il est introuvable actuellement, mais bon. Ceci étant, c'était cette première surprise, elle s'est développée avec une deuxième surprise. Et la deuxième surprise, c'était qu'on parlait beaucoup d'Elcano. Et Elcano, il a fait le tour du monde avec Magellan. Enfin, lui a terminé. Hein. Il est arrivé à Séville. Par contre, il y a peu de gens qui savent ce qui s'est passé avec Elcano avant qu'il commence son tour du monde. Et Elcano, il était à Gênes, Italie. Et il y avait beaucoup de Basques qui se trouvaient à Gênes. Il y avait des sociétés d'assurance, etc., qui assuraient beaucoup de bateaux. Et il y avait beaucoup de marins basques qui se sont retrouvés du côté de Gênes et qui ont assuré une très très bonne... ils ont commencé à faire du commerce. Alors, les marins, on a ici l'habitude de parler donc des marins pêcheurs. Là, on va parler beaucoup au XVe siècle. On va parler au départ, je dirais, de commerçants. Et on va parler de commerçants, quelquefois peut-être des pirates ou des corsaires, c'est pour ça, enfin, je veux dire, ça c'est le rôle de notre ami capitaine là qui va nous parler de ça. Et c'est durant tout le XVe siècle qu'on va avoir un mouvement extraordinaire. Il faut se replacer au XVe siècle. Au XVe siècle, non, je voulais juste faire un petit, vous essayer que vous replongiez. En l'an 1400. En l'an 1400, l'Europe, c'est quoi? Vous avez d'un côté un pays, l'Italie, qui est en réalité avec toute une série de petites, je dirais, principautés, de républiques, etc. Quand on commence à connaître ce que font les Italiens, on va être extrêmement surpris, et là, on aura l'occasion de vous en parler pas mal. De l'autre côté, si j'ose dire, de la Méditerranée, on va trouver l'Espagne. L'Espagne, on est en pleine Reconquista. Donc les Espagnols ont commencé depuis assez longtemps à repousser, je dirais, tous les Arabes qui étaient venus et qui avaient envahi l'Espagne. Et donc l'objet principal, ce sera de repousser les Arabes chez eux. Donc, on va y arriver à la fin du XVe, où ils seront repassés, ils auront quitté Grenade, et ils seront repassés de l'autre côté de la Méditerranée. Et il y a un truc qui s'appelle la France, mais c'est pas vraiment la France. Ici, en 1400, nous sommes sous la tutelle des Anglais. Il faut quand même le savoir. Et les Anglais, eux aussi, vont repartir chez eux. Et le duc d'Aquitaine, qui répond au roi d'Angleterre, va aussi quitter, je dirais, Bordeaux. Il va remonter gentiment, je dirais, vers l'Angleterre. Et tout ça, ça veut nous dire une chose, c'est que dans ces trois pays, on a une instabilité assez incroyable. On a un petit peu la même chose si on regarde du côté de l'Allemagne, avec tous les différents Länder qui sont eux aussi, je dirais, pas tout à fait figés et qui vont petit à petit s'organiser. À l'ouest de l'Allemagne, sur les Pays-Bas, on va avoir également, je dirais, entre les Pays-Bas et la Belgique, on va avoir des mouvements et on va avoir des choses qui se passent de manière très intéressante sur toute la Baltique. Si je vous parle de tout ça, donc je vous ai parlé de l'Angleterre, c'est que on a, je pense, oublié beaucoup de réfléchir à ce que faisaient les gens, et notamment les pêcheurs, qu'est-ce qu'ils faisaient ici quand ils allaient pêcher. Ils allaient pêcher, certes, depuis Saint-Jean-de-Luz, ils remontaient, mais quand on était avec les Anglais, on remontait aussi vers l'Angleterre. Et on faisait du commerce avec l'Angleterre. Et ça, on l'oublie un petit peu, et c'est dommage. Bon. Mais de l'Angleterre, on partait aussi en Hollande, et de Hollande, les Pays-Bas avaient tout leur circuit commercial qui partait vers la Baltique. Donc ça, on a la première vision, si vous voulez, que nous avons. C'est un petit peu c'est la carte qui est issue d'une carte de Ptolémée, où on va retrouver... Alors ici, vous voyez, ça c'est la France. Hein. La Bretagne, elle semble un tout petit peu plus petite. On a l'Espagne et le Portugal qui sont un petit peu ensemble. La botte italienne, et ensuite on va arriver donc sur toute la partie, je dirais, Afrique du Nord, et donc la mer Rouge. Et je dirais que ça, c'est quand même une vision relativement européenne, telle qu'on peut la voir nous aujourd'hui, mais il faut quand même se rappeler que nous avions au XIIe siècle, nous avions un empereur chinois qui avait construit 7 escadres qui sont partis dans tous les coins pour cartographier, je dirais, un petit peu le pays et qui nous a donné d'autres types de cartes. Après cette première vue où on a une idée un tout petit peu de ce qu'était le monde tel qu'il était. On s'aperçoit donc que la Reconquista donc va prendre donc là on a une carte qui est très récente parce qu'elle date de 1500 hein, et donc dans cette carte de 1500 vous allez retrouver un tout petit peu de c'est une carte où on voit relativement peu de choses, je trouve, mais bon, elle a le mérite d'exister. Lorsqu'on parle de la Reconquista, il y a deux phénomènes qui sont assez importants. Le premier phénomène est celui qui est la bataille de la Castille, notamment vers la Navarre, qui va se terminer par Amayour, qui est un petit peu la fin d'une partie de la Navarre. En tout cas, c'est la fin de l'accès à la mer de la Navarre, pour faire simple. Hein. Mais tout ça va un petit peu s'agréger et on va petit à petit que les forces arabes descendent sur Madrid, sur Séville, etc. On va s'apercevoir aussi qu'on va créer un pays juste à côté qui s'appelle le Portugal. Et le Portugal, petit à petit, là, personne n'a peut-être fait attention, mais il va être assez puissant. Et il va permettre de faire un certain nombre d'avancées dans le domaine maritime. Nos Anglais quittent la Guyane et ils se retrouvent donc en Angleterre. Ils sont contents. Visiblement, tout va bien. Mais ça nous laisse supposer quand même que nous avions des liens maritimes qui existaient entre la côte basque et l'Angleterre. Et ça, on n'a pas travaillé ça sur le plan actuellement, sur le plan du business, du commerce qui existait. Or, ce qui est très important, c'est que les Anglais avaient une bonne force de, faisaient bien entendu du commerce. Ils partaient notamment de Bristol, de Londres, et ils allaient donc, ils circulaient. Donc, il y avait beaucoup de circulation, et c'était du cabotage qui était fait entre les ports ici du Pays Basque et en remontant sur Bordeaux, La Rochelle, Nantes, etc. Pour amener, généralement, on amenait du lin, de la laine, etc. Et puis on redescendait, on faisait un petit peu de commerce, donc on redescendait avec quelques monnaies, puisqu'on avait vendu ça. Les produits d'ailleurs seront différents si on regarde ce qui s'est passé au niveau du Pays basque espagnol ou du Pays basque français. Et c'est volontairement que j'ai voulu que la conférence ne traite que des Basques en général, c'est-à-dire en mélangeant, je dirais, le nord et le sud. Et c'est très volontaire parce que finalement, on s'aperçoit que nos approches ne sont pas toujours les mêmes, mais elles méritent d'être connues. On va avoir, puisqu'on descend, etc., on va tout d'un coup avoir une chose qui est intéressante et qui va se monter aux alentours de Cadix, qui est une école de pilotage. Bon, c'est dans les années 1200, 1300. Et dans cette école de pilotage, on va retrouver des gens de Gênes, on va retrouver des Anglais, on va retrouver beaucoup de gens des Basques qui vont se retrouver là-bas. Et petit à petit, on va s'amuser à... Les gens vont se parler, vont échanger entre eux, etc. Et on va s'apercevoir que lorsqu'on regarde les équipages qui sont embarqués dans des navires qui vont aller dans de grandes destinations, je parle vers les Amériques, vers le Canada, etc., on va s'apercevoir qu'il y a pas mal de Basques, mais il y a aussi des Anglais. Bon. Et on n'a rien contre les Anglais. Mais c'est intéressant de voir que dans l'Espagne a réussi à bien développer, je dirais, cet aspect des choses, a bien permis aux gens de vraiment permettre un beau développement. Il y a un certain nombre de choses qui sont intéressantes dans ce pays. C'est qu'on voit, par exemple, vous avez certainement entendu parler d'un type qui s'appelait Colomb. Vous savez, Christophe. Hein? Alors, Christophe Colomb, là, il a soi-disant découvert l'Amérique. C'est pas vrai. Hein? Tout le monde sait que c'est pas vrai. Bon. Mais par contre, bon, il était parti. Il venait d'où, Colomb, d'après vous? Gênes. Voilà. Très bien. Je vois que vous m'écoutez. Et il y avait beaucoup de gens qui, effectivement, on a de grands marins qui vont venir de Gênes. Et l'Italie va amener, je dirais, ces gens qui sont extrêmement formés à la fois sur le monde des affaires, comme ils ont été formés, je dirais, à naviguer, et ils ont bien étudié à Séville en particulier. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont avoir la bonne idée en Espagne de créer la Casa de Contratación. C'est une espèce d'entreprise. Je simplifie un peu, mais vous allez voir que c'est une entreprise qui va véritablement organiser les grands voyages. Et ils ont toutes les compétences pour organiser les grands voyages avec des gens tout à fait remarquables. Moi, ça m'a fait bien plaisir de constater que les trois principaux dirigeants de la Casa de Contratación, il y avait deux Basques sur les trois. Et on va avoir donc un certain nombre de personnes qui vont être embauchées pour faire des voyages. Alors, on a parlé brièvement de Colomb, mais on peut très bien aussi parler de personnes comme Elcano, un petit peu plus tard. Elcano, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Elcano, il est arrivé, il avait eu quelques soucis commerciaux, je dirais, à Gênes, et il est rentré, si j'ose dire, de Gênes vers sa patrie. Il est un petit peu embêté. Et parce que moi, je me demandais pourquoi Magellan avait pris Elcano. Magellan, Gênes, et Elcano, qui était de Guétaria, 70 km d'ici. Après quelques recherches, il est apparu que c'était un bon marin, c'était un bon leader, semble-t-il, sur ses bateaux. Ça, c'est de ce qu'on reçoit, je dirais, dans la littérature. Mais surtout, il a quand même réussi à faire le tour du monde et a ramené quand même quelques personnes à Séville. Et à ce moment-là, on lui a pardonné d'avoir fait des choses pas très bien avec les Italiens. Mais ça, on va oublier parce que c'est pas gentil. Mais il y a une autre personne là qu'on appelle Cabot. Alors, tu sais, c'est celui qui aurait découvert, soi-disant, le Canada. John Cabot. En fait, c'est Giovanni. C'est Giovanni Cabot. D'où est-ce qu'il vient? Gênes, bien entendu. Il vient de Gênes. Et lui aussi, il va passer, donc il va avoir cette formation, il va avoir toute la mise au point, je dirais, du programme de découverte, je dirais, du Canada. Il va aller vendre ça au début, bon, les Espagnols n'en voudraient pas, les Portugais n'en veulent pas, il va réussir à vendre ça aux Anglais, mais il vend aux Anglais l'idée d'atteindre directement l'Asie par une voie qui serait au nord, finalement, au nord du Canada. Petit problème, c'est que bon, il s'est peut-être, je ne sais pas s'il s'est trompé dans ses orientations, mais il va arriver un petit peu sur Terre-Neuve. Il ne va pas beaucoup aimer la température, je crois. Et bref, il va faire un petit tour. Il descend même pas sur il descend un peu le Saint-Laurent, mais il va même pas descendre, rencontrer les gens, etc. Et puis il repart. Il dit au roi, je me suis trompé, je vais revenir. Et ce qu'il a refait trois fois. Et la troisième fois, il est mort un petit peu au nord. Bon, mais c'est pas le seul. Vous avez un certain Giovanni de Verrazzano. Vous dire qu'il est anglais, ce serait un mensonge, hein, c'est un Italien. Mais Giovanni de Verrazzano, il a une particularité, c'est qu'on connaît assez peu, c'est qu'il a découvert quand même, il a été le premier à découvrir Terre-Neuve, semble-t-il, après les Vikings, bien sûr, je fais la parenthèse, mais bon. Et donc, on a, pendant cette fin, je dirais, de 15e siècle, on va voir toute une série de gens qui vont faire des projets extraordinaires, alors que la situation, je dirais, économique est très saine et très bonne, je dirais, au niveau espagnol, puisque les Espagnols ont gagné beaucoup d'argent, je dirais, d'une part, avec ce qu'ils ont récupéré à la fois des Juifs et à la fois des musulmans. Donc, ils pouvaient payer. Et on verra que dans le siècle suivant, les Portugais vont avoir aussi de bonnes rentrées d'argent, grâce à un certain Christophe Colomb, je crois, qui a découvert, disons, l'Amérique. Bon. Et puis, voilà. Donc, c'était pour vous mettre un petit peu dans l'histoire du début du XVe siècle. Bien entendu, on a commencé, si vous voulez, à travailler. Je vous ai pas parlé même pas de Yakinza, et Yakinza a commencé à travailler depuis presque un an là-dessus, aussi bien avec des universités comme l'université du Montréal, aussi bien avec l'université Laval à Québec, et également l'université du Pays Basque. Mais on a eu la chance de rencontrer donc des gens le président d'Albaola, Xavier Agoté, et aussi quelqu'un que vous devriez connaître qui s'appelle Xavier Alberti, qui a la chance d'être ici en plus de ça. Moi, j'ai la chance de l'avoir vu, et qui est directeur général du musée naval de Saint-Sébastien que je vous invite fort à visiter. Voilà. Donc je voulais les remercier beaucoup. Et je vais passer la parole à mon collègue et capitaine. Donc, monsieur le capitaine, c'est à vous de parler.
Merci. Merci, Xavier, pour cette petite présentation. Et donc, je prends le harpon et je vais commencer donc par un petit mot de remerciement. Ce projet de conférence présenté ce jour dans cette église à Saint-Jean-de-Luz, Saint-Jean-Baptiste du Labour, repose sur un travail enrichissant de recollection, de communication, d'entretien avec des chercheurs et historiens sur notre patrimoine maritime basque. C'est leurs travaux d'investigation qui ont permis la réalisation de cet aperçu sur le thème « Les Basques en Méditerranée » du XVe au XVIe siècle. Pour cela, avant tout, je tiens à remercier la mémoire de mon oncle, Henri Lapeyre, attaché de recherche au CNRS, Jacques Bernard, Jacques Hirsch, Michel Mola, Jean-Philippe Priotti, Selma Huxley-Markham, José Antonio Aspiazu, Javier Agote Albaola Factoria, Javier Alberdi Blombide Donostia, Euskual Itxas Museoa, Carles Bela Ai Aulesa Itxas Memoria, Fernando Txuka Izasti, Christian Dicola, Caroline Luga, l'association Yakinsa, la mémoire de Pierrette Bruyère des Caïna, de Jean-Marie Régnier, à qui je dédie ce travail. Enfin, à Xavier Laramendi, initiateur, et monsieur le curé Lionel Landard, pour son accueil lors des conférences du mardi sur le thème de cette belle eau, de cette mer de Biscaye ou mer de Gascogne ou mer cantabrique, tout dépend de l'eau, de où on la regarde. Denensat, Milechker. Grâce à leurs activités militaires et commerciales, qui sont à l'origine de leur expansion, les Basques constituent un des ferments de l'économie internationale dans sa phase d'émergence. En Méditerranée, dès le XIIIe siècle, ils associent guerre et transport. On les voit agir jusqu'à Kio, Beyrouth et Alexandrie en tant que voituriers de la mer. La fréquence de leurs contacts avec les ports méditerranéens engendre la sédentarisation d'agents de même origine installés dans les centres névralgiques du commerce qui servent de relais aux Basques itinérants. Lorsqu'à la fin du XVe, la fortune commerciale de la Castille et du Pays Basque leur donne de multiples occasions de s'employer, les têtes de ligne de leur voyage partent souvent des ports basques. Soutenus par leurs activités de transporteurs et leur production propre, ils établissent alors une escale en terre basque sur les trajets entre Méditerranée et Atlantique. Des organisations maritimo-mercantiles parachèvent cette expansion. Mais vers 1560-1570, le réseau basque méditerranéen semble s'affaiblir. La concurrence d'autres marines, le gonflement des échanges atlantiques et des frais de fonctionnement élevés scellent la fin de la participation des Basques à la vie commerciale méditerranéenne au XVIe siècle. Ce que je voudrais vous dire, c'est que, avant tout, 1588, c'est le retour de l'invincible Armada, et il est évident que tous les chantiers navaux de Guipuscoa et Biscaya ont travaillé à cette entreprise. À la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, nous sommes donc au XVe siècle, les marins biscayens, Guipuscoa, Labourdin, apparaissent aussi bien sur les rivages de la mer du Nord et de la Manche qu'en mer intérieure. À ce titre, ils figurent parmi les premiers à connecter par voie maritime les pôles de commerce italiens à ceux de l'Atlantique. Plus tard, ils participent à la découverte et à l'exploitation des richesses du Nouveau Monde. Grâce à la pêche, à leurs activités militaires et commerciales, qui sont à l'origine de leur expansion, ils constituent un des ferments de l'économie internationale dans sa phase d'émergence. Les mots qui suivent ne prétendent pas faire un tour complet et définitif de la présence basque en Méditerranée, mais plutôt analyser les modalités de l'installation, puis du retrait des transporteurs et marchands atlantiques de la mer intérieure. Ce processus d'expansion puis de reflux proposé demanderait confirmation. C'est dire autrement que ce travail ouvre davantage de nouvelles pistes de recherche à partir d'un état de la question qu'il ne fournit de conclusions basées sur des dépouillements exhaustifs d'archives. C'est pour cela que nous tenons à sensibiliser les différentes universités afin qu'on puisse faire non pas un reset, mais une mise à jour des connaissances à ce jour. La présence basque en Méditerranée. Dès la fin du XIIIe siècle, les Basques se trouvent en Méditerranée pour des raisons militaires. À ces activités guerrières s'associe un intense trafic marchand. au XIVe siècle et plus encore au XVe, ils parcourent la mer intérieure en tous sens, assurant les jonctions nécessaires avec les havres atlantiques. Ces voituriers basques vont des Pays-Bas, d'Angleterre et d'Irlande jusqu'au port de Marseille. Ils sont également nombreux à offrir leurs services sur le trajet Cagliari-Barcelone. Selon Jacques Hirsch, le commerce de la colonie catalane ne peut se maintenir à cette époque sans les transports maritimes basques. Il y a plus. Pendant une quinzaine d'années, entre 1450 et 1465, leur activité est si intense à Gênes que le navire basque constitue un moteur essentiel de l'économie. En 1460, 20 navires basques arrivent dans le grand port ligurien, dont 8 sont originaires de Bilbao, qui relie Gênes à Ibiza, Barcelone, Civitavecchia et à la Sicile. En 1482 et 1484, Martin Ochoa de Armandura et Pedro Ochoa de Iturriaga, tous deux de Bilbao, se dirigent respectivement vers la Barbarie et le Levant avec un chargement de thon. Tous ces va-et-vient se réalisent au gré des conjonctures et s'adaptent aux demandes. Que les pôles économiques changent de place, et voilà nos transporteurs sur de nouvelles routes. À la fin du XVe, la fortune commerciale de la Castille et du Pays Basque leur donne de multiples occasions de s'employer. Les têtes de ligne de leur voyage, alors souvent des ports espagnols. Si des marchandises arrivent toujours à Gênes, elles sont le plus souvent stockées dans les grands entrepôts de la péninsule, parmi lesquels s'affirme Bilbao en Biscaye, avant d'être réexpédié vers le nord. Il faut savoir que pour Bayonne, qui est juste à côté, était aussi un entrepôt, puisque nous étions spécialistes des liaisons sur le nord, avec Bordeaux, La Rochelle, Nantes, on va dire Bruges, Anvers et Londres. De même, lorsque ces voyages se font de Valence à destination des Pays-Bas, la Biscaye fait plus d'une fois office d'entrepôt pour les opérateurs espagnols. Après avoir mis sa marine au service de ceux-ci, le Pays basque s'établit en étape espagnole des produits acheminés vers la France ou les Pays-Bas, essentiellement du fer et de la laine, non seulement depuis la Ligurie, mais aussi depuis l'Espagne levantine et l'Andalousie. À cette époque, grâce à leur activité de transporteurs, les Basques réussissent à détourner une partie du trafic vers leur contrée d'origine, d'autant plus facilement que leur production de fer, armes, construction navale et celle des Castillans, laine, teinture et tissu, leur permettait de compléter les achats réalisés en Méditerranée pour leur compte et celui de tierces personnes. Ils créent ainsi un relais sur les routes commerciales qui relie la Méditerranée au canal de la Manche et à la mer du Nord, en injectant dans ses flux commerciaux leurs propres marchandises. Les havres basques se trouvent alors à l'intersection de nombreux itinéraires maritimes. Un cortège d'activités accompagne cette nouvelle fonction liée à l'entrepôt. Autant de stimulants pour la diffusion des pratiques commerciales et surtout pour l'établissement de liaisons stables qui profite non plus exclusivement aux transporteurs, mais aussi à la population basque sédentaire. Avant d'être des intermédiaires privilégiés entre l'Europe du Nord-Ouest et la Castille, le Pays basque a relié le pôle italien au pôle flamand. Ainsi, les ports basques ont-ils été très tôt partie intégrante et active de l'économie commerciale européenne. La Méditerranée n'accueille pas exclusivement les Basques sur les rives occidentales. Au début du XVIe siècle, ils ancrent souvent leurs navires sur la côte adriatique, dans les ports italiens d'Ancône, de Barletta, Manfredonia et Trani. Leur rôle y est double. D'une part, ils apparaissent comme transporteurs pour le ravitaillement de la péninsule ibérique, qui, de septembre 1521 à 1515, absorbe 96% des exportations de blé des Pouilles au départ de ces trois derniers ports. C'est-à-dire que le pain de Barcelone était livré par les Basques qui se servaient en mer Tyrrhénienne. De l'autre, ils s'immiscent à maintes reprises dans le commerce même des céréales. Pas moins de 8 Basques qui achètent du blé des Pouilles dans ces années-là nous ont été signalés par Giulio Fenicia. En continuant vers l'Orient, nos marins amarrent régulièrement leur nef ou nao à Beyrouth. Dès 1400, ils réalisent plus de 5% du trafic portuaire d'Alexandrie au début du XVe siècle. On les repère aux mêmes dates à Chypre et à Chios. L'ampleur de leur rôle s'étend dans toute la mer intérieure et non pas exclusivement à son bassin occidental. Cependant, les incursions de bâtiments basques en Méditerranée ne saurait faire oublier les flottes génoises, catalanes, vénitiennes et ragusaines, pour n'en citer que quelques-unes, qui accomplissaient aussi leur part de travail, qui participe à la concentration et à la redistribution des marchandises. Néanmoins, définir l'importance de la présence basque ne peut se limiter à un simple comptage. Les espaces fréquentés, les techniques mises en œuvre et les capacités d'adaptation ne caractérise-t-il pas également ces acteurs trop souvent négligés? Réseau et relais. Cette activité de transporteur, à première vue désordonnée, allant au gré des commandes et des affrètements, fonctionne en réalité de façon organisée, à Valence, à Gênes, à Majorque, en Sicile, comme à Bruges et à Séville. Des consulats ou des communautés maritimo-marchandes organisées se forment, qui soulignent avec force la présence des Basques dans ces grands ports. L'activité de ces hommes en Méditerranée n'est pas résolument attachée au transport maritime, comme on l'a souvent suggéré. À y regarder de près, les préoccupations des Basques en Méditerranée ne sont pas seulement celles de marins expérimentés. L'importance de leur présence ne se mesure par les différents consulats biscayens et guipuscoans ou de tous les Espagnols que président les Basques. C'est ce que disait Xavier Aramendi avec l'école de Pilate et à Cadiz et les différents consulats qui avaient été réalisés. Cela révèle l'existence d'une population sédentaire basque sur les rives européennes de la mer intérieure qui agit en cheville avec les transporteurs négociants itinérants, avec les chargeurs et marchands installés dans la patrie d'origine, dans le golfe de Biscaye, et avec les groupes basques disséminés sur les côtes atlantiques. Un consulat des Biscayens et Guipuscoans est en place à Valence en 1504. Sa création a des objectifs clairement commerciaux. Le consul est chargé de taxer de 20 sous chaque centaine de tonneaux de charge et d'un denier chaque livre de marchandises qui appartient à des Biscayens ou à des Guipuscoans. Dans la ville, des hôteliers basques reçoivent marins et marchands chez eux et servent aux besoins d'intermédiaires entre leurs compatriotes et les marchands locaux. La présence de ces lieux de sociabilité, où l'on se retrouve entre migrants de la même terre natale, apporte une cohésion plus forte au groupe basque. À Syracuse, le consul est dit « des patrons et marchands et marins naturels de la province guipuscoa et comté Iscaya, comprenons seigneurie et incartaciones qui seraient en la dite ville en mer comme à terre. José Ángel García de Cortázar, pour sa part, fait référence à un consul basque dont le port de Majorque pendant la seconde moitié du XVe siècle. Leur expérience de la mer et du commerce les conduit à occuper d'autres charges. Pour ne donner qu'un exemple, Juan Gómez de San Sebastián et consul de tous les Espagnols à Gênes pendant 11 ans. Gênes, autant dire un des grands centres de commerce méditerranéen, sinon européen. Ce qu'il faut se rappeler, ce qu'il faut imaginer, c'est que Gênes, c'était Manhattan à l'époque. Cette institution, comme celle présente à Valence et à Syracuse, protège et coordonne les va-et-vient des chargements de fer entre le Pays Basque et la Méditerranée, dont tous les grands ports ou villes attestent la présence. Valence, Carthagène, Marseille, Gênes, Pise, Rome, Palerme, Ancône, etc. C'est cette matière première comme fret qui permet aux Basques de détourner une partie du commerce entre Méditerranée et Atlantique à leur actif. Mais les habitants du golfe de Gascogne ne se contentent pas des seules productions de leur patrie d'origine. Ils font feu de tout bois et s'accommodent de nombre de marchandises pour leur commerce. Blé, tapis, bois, esclaves, draps de soie, alun, intéressent ces voyageurs. Des agents sédentaires installés au point névralgique de l'économie méditerranéenne soutiennent les activités de ces charretiers de la mer. Bien qu'ils ne les considèrent pas comme de véritables marchands, Jacques Hirsch reconnaît qu'ils vendent du fer de Biscaye et achètent des droits de soie ainsi que des esclaves. Méditerranée, au moins depuis le XVe siècle, leur activité déborde largement le cadre du transport. Ils sont à la fois colporteurs de la mer, financiers, transporteurs et corsaires. Dans les années 1460, une quinzaine d'entre eux, originaires de Bilbao et d'autres ports et villes basques, sont installés à Gênes. Ils y manient la lettre de change et octroient des prêts à risque maritime, des prêts à la grosse, à leurs compatriotes, parfois pour d'importantes sommes. Ils financent également les voyages des Galiciens en Méditerranée, à Florence dans les années 1490-1500. Des Basques tels que les Arbieto, les Amusco et les Ordonia sont en affaire avec la grande firme Salviati. Lorsque l'on regagne l'Espagne, les voilà qui pratiquent l'assurance et qui réalisent des prêts maritimes pour le compte de Valenciennes, ou font venir de Kio, Turquie, pour leur propre compte, alun et tapis. Des contacts s'établissent aussi entre les Bilbaïnais d'Anvers et ceux de Malaga. Plus que les particularités de leurs établissements dans telle ou telle contrée, c'est la vision d'ensemble qui gagne à être considérée. On les voit agir à la même période sur les berges de la Tamise ou à Bruges comme des marchands à part entière. Un consulat de Biscayen est d'ailleurs érigé dans ce dernier port dès la fin du XVe siècle. Le fer de Biscaye se vend alors dans l'Europe entière et en Méditerranée, il est largement présent, ainsi que nous pouvons le voir à Barcelone, à Gênes comme à Valence, Carthagène et Malaga. Dans les ports atlantiques, il est encore plus attesté, aux grands ports anglais et flamands déjà cités. Il faut ajouter ceux de la Baltique, vers lesquels les envois s'effectuent à partir de Bruges et d'Anvers, lieu de résidence d'une nombreuse colonie basque, et ceux plus proches des côtes de Galice, du Portugal et de la France. À la fin du XVe siècle, la Gascogne reçoit du fer de Biscaye. La Bretagne ainsi que la Normandie importent également du fer basque. Au XVe siècle, le marin et le marchand basque, qui ne font parfois qu'une seule et même personne, se trouvent déjà installés à l'intérieur de rouages de l'économie européenne. Ils manient la lettre de change, consentent des assurances, accordent des prêts et attendent les commerçants de la mer ou les patrons basques dans des relais commerciaux à Valence, Carthagène, Malaga, Nice, Marseille, Gênes, Florence, dans les Pouilles, Syracuse, pour ses activités de transport et commerce. Cependant, ce système se détériore lentement à partir de la fin de la première moitié du XVIe siècle. Organisation. Pour agir dans des conditions d'efficacité maximale, les groupes de marchands basques dispersés à travers le monde disposent, comme nous l'avons vu, d'institutions maritimo-commerciales variées. Consulat de Bilbao, consulat basque à Valence, à Syracuse, consulat de Biscaye à Bruges, mais aussi confrérie de Nantes et de Bilbao, collège de pilotes biscayens à Cadiz, congrégation basque à Séville, confrérie de Notre-Dame de Arantzazu à Mexico, etc. Ces institutions portent en elles plusieurs avantages. Bien entendu, elles fortifient les activités marchandes et de transport et les protègent avec l'aide de membres du corps diplomatique établis à l'étranger. Elles associent également, dans bon nombre de cas, affaires biscayennes et affaires guipuscoanes, ce qui est d'une importance non négligeable pour les succès respectifs des ressortissants des deux provinces. Ne doutons pas que l'essor des échanges en Atlantique ait tout autant contribué à vider les ports de la mer intérieure des transporteurs basques. Ainsi, le développement et le renouvellement des réseaux commerciaux basques dans l'Atlantique, la Manche et la mer du Nord, ont certainement absorbé davantage d'énergie humaine que par le passé. Dernier élément qui découle des précédents, la baisse du transport effectué par les Basques en Méditerranée a fragilisé leur puissance commerciale et a augmenté les coûts de fonctionnement de leurs différentes organisations. Les Basques ne jouissent plus dans la seconde moitié du XVIe siècle des avantages qu'il possédait auparavant, à savoir de nombreux relais terrestres et maritimes de leur terre d'origine, commissionnaires, capitaines de navires, aubergistes, coursiers, assureurs, intermédiaires. Établis ou fréquentant les grands centres du commerce de la Méditerranée, démunis de ces relais pour véhiculer leurs marchandises en mer intérieure, pour vendre, acheter et financer le fret d'aller et de retour, privés de l'efficacité d'organisation réduisant l'adversité, les entrepreneurs basques doivent remettre aux mains d'autrui les affaires qui comptent opérer dans cet espace, essentiellement des Portugais et des Catalans. Il s'ensuit pour eux des coûts de transaction plus élevés que par le passé, qui réduisent leur compétitivité. Bien entendu, il faudrait poursuivre l'enquête en explorant et en exploitant certains dossiers rassemblés dans les archives des ports méditerranéens, particulièrement Gênes, pour approfondir notre connaissance des mécanismes et des circonstances qui ont permis l'émergence, la consolidation, puis provoqué le déclin de l'activité des Basques. Deux faits semblent néanmoins hors de doute. Les contacts noués et les réseaux tissés avec les marchands italiens les ont initiés aux techniques commerciales et bancaires. Alors, comme vous le savez, les Basques, avant d'aller en Méditerranée, ils transportaient la laine de Castille et ils avaient déjà des idées parce qu'ils avaient pris beaucoup sur les techniques de la Hanse, donc de nos commerçants. Et que, effectivement, la formation, elle a été complémentaire en Italie, avec les progrès qui étaient faits par Venise, le Doge de Venise, et par la République de Gênes. Alors, les techniques commerciales et bancaires, bien entendu. Ils les ont ainsi préparés à jouer un rôle de premier plan dans la diffusion de ces connaissances et dans les échanges, dans les futurs échanges en Atlantique avec le siècle d'or. Il est dès lors évident que ces hommes sont plus que de simples marins, ou de passifs intermédiaires, comme on les décrit traditionnellement, quand on ne les néglige pas. Leur cabotage, qui prend appui sur un solide réseau de correspondants, participe à la diffusion de marchandises diverses et de savoir-faire. Il sert également de trait d'union entre des espaces économiques différents et relativement éloignés. La présence de ces Basques en Méditerranée n'a donc rien d'anecdotique ou d'exotique, et le transport à frais ne constitue qu'une facette de l'activité de ceux qui se révèlent être autant marchands, hommes de guerre que voituriers des mers. Voilà, ça c'est un petit peu pour vous présenter l'activité donc de ces marins en Méditerranée. Le texte, c'est le contexte historique, c'est les routes et trafics maritimes. Quel était l'enseignement génois au niveau des financements, assurances, échanges commerciaux et avitaillements? Et quelle était la place des corsaires et mercenaires face à ces énormes trafics en Méditerranée? Le contexte historique, c'est tout d'abord, au XIIe siècle, la quatrième croisade. Je vous rappelle que nous avons eu Bernard de Lacare, qui était l'évêque de Bayonne, et le grand amiral de la flotte de Richard Cœur de Lion. Et lors de cette quatrième croisade, ils se sont attaqués à Byzance, ils ont pillé Byzance. Donc ils se sont rendus compte un petit peu de ce qui se passait là-bas. Au XIIIe siècle, c'est la Reconquista. C'est la Reconquista, donc ils ont aidé le royaume d'Espagne. On en a parlé lors de la libération de Séville, on en a parlé en Andalousie. Ils ont gardé le détroit, je ne vais pas dire de Gibraltar, mais le détroit de Méditerranée. Et puis ils ont combattu les Génois et ceux de Venise. Pourquoi? Parce que c'était eux qui géraient le trafic donc des épices. Au XIVe et XVe siècle, c'est leur présence à Barcelone, on en a parlé, des courses en Vergène, et surtout la Tyrénéique, où véritablement ils assurent le commerce du blé, du pain et du sel. Donc c'était des vraquiers, en fait. En fait, avec l'invasion normande, les Basques y sont remontés et ils ont proposé donc au roi de France de l'aider. Ensuite, ils sont repartis vers les Basques, vers Marseille. Ce qu'il faut donc bien se rendre compte, c'est qu'au XIIIe siècle, effectivement, c'est l'hégémonie des flottes italiennes et génoises et que ce sont des énormes convois qui partent d'Alexandrie, qui partent de Venise, qui partent de Gênes. Et à partir du XIIIe siècle, ils vont... les Basques les ont accompagnés justement pour les amener sur les places de Bruges et d'Anvers. Avec la conquête, avec le 15e siècle, c'est la conquête de l'espace maritime de méditerranéen, donc 1351. La course avec Gênes, c'était en 1393. Et l'activité marchande en Tyrénéique, c'était pratiquement pendant tout le 15e siècle. 14e, il faut 50 navires basques face à l'invasion normande. Installation des flottes basques à Marseille en 1426. Et à partir de 1428, on voit les Génois qui s'intéressent au contrat d'assurance, justement, des bâtiments basques. Pourquoi ? Parce qu'il y a du fret. Et ils se disent, eh ben, on ne peut pas les laisser partir. Il y a une date qui est particulièrement importante. On est à la moitié du 15e siècle. C'est 1453, la prise de Constantinople par les Ottomans, qui vient complètement perturber le trafic des épices en Méditerranée. C'est ce qui a fait la fortune, si vous voulez. Byzance était exploitée par Venise, et c'est Venise donc qui en tirait tous les résultats. Ça, c'est pour le contexte historique.
15e et 16e siècle, les Basques, de la Méditerranée à la Baltique et à Terre-Neuve. Vous venez d'entendre la première partie de la conférence de Xavier Laramendi, vice-président de Yakinsa, et de Bertrand Ariague, capitaine des Corsaires. La semaine prochaine, nous retrouverons Bertrand Ariague, enregistré le 9 août 2022 à l'église de Saint-Jean-de-Luz.
L'eau des hommes et les hommes de l'eau. Les mardis de l'été 2022 à Saint-Jean-de-Luz, un cycle de conférences proposé par la paroisse Saint-Pierre de l'Océan.